Affinité culturelle. Toufik Hakem.
Et c'est tous les samedis de 6 à 7 à la radio, ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne disponible sur franceculture.com, ou mieux, pour ne rater aucun épisode, s'abonner au podcast de l'émission Affinité culturelle disponible sur l'appli de Radio France. Bonjour à toutes et à tous. Une semaine en enfance sur France Culture depuis lundi et dans pratiquement toutes les émissions pour les fêtes. Et dans Affinité culturelle, aujourd'hui, on s'intéressera à l'enfance des super-héros. Ou plus exactement, à comment on a inventé, imaginé l'enfance des super-héros, en réalité les plus populaires d'entre eux. Avec comme invité Xavier Fournier, rédacteur en chef du magazine Comic Box. Également scénariste de bande dessinée, il est l'auteur de Super-Héros, une histoire française entre autres ouvrages, avec Théo Touré d'Angreville, universitaire, spécialiste en culture contemporaine américaine. Il prépare actuellement un projet de thèse sur les représentations des justiciers super-héros. Et enfin, avec l'auteur de bande dessinée Marc Bourne, qui imagine en tant que scénariste cette fois dans une nouvelle série commandée par Casterman, l'enfance d'Alix, le jeune esclave gaulois, héros de la bande dessinée franco-belge inventée par Jacques Martin. On parlera donc autant de comics américains que de lignes claires et plus si affinités.
Affinité culturelle.
Et joyeux Noël à tout le monde, joyeux Noël aussi à vous Xavier Fournier, Théo Touré d'Angreville et Marc Bourgne. Alors qu'est-ce que vous avez glissé dans le sapin pour vos enfants, pour vos proches, plutôt des comics Théo Touré d'Angreville, Xavier Fournier, plutôt de la bande dessinée franco-belge Marc Bourgne, est-ce que vous vous êtes rendu à l'évidence, c'est-à-dire que vous avez glissé pour vos enfants plutôt les mangas, puisque depuis maintenant deux décennies, c'est plus les mangas qui prennent de la place l'imaginaire des enfants. Allez, on commence par vous, Xavier Fournier.
Nous n'avons rien glissé, c'est le Père Noël qui s'en est occupé.
Et alors, qu'est-ce qu'il a glissé, alors, le Père Noël?
Mais je pense qu'il a glissé quelque chose qui se boit, qui se mange, des choses comme ça, et puis peut-être quelques statuettes aussi.
Non, vous voulez dire que vous n'arrivez pas à transmettre votre amour des comics aux plus jeunes, à vos neveux, nièces?
Si, mais en fait, c'est pas moi qui leur transmets, c'est la culture populaire qui est ainsi faite que j'ai eu beaucoup de petits cousins qui se sont mis tout seuls à Batman ou à des personnages comme ça et qui sont très étonnés quand il y a un adulte qui leur dit « Ah bah oui, je connais, qui est capable de leur lister les ennemis de Batman et compagnie », ça les surprend un peu d'ailleurs.
Donc le manga n'a pas tout essuyé, toute cette culture américaine dans laquelle vous avez bercé, que Xavier Fournier.
Mais les gens qui lisent des mangas sont aussi souvent des gens qui lisent des comics ou qui vont voir des films ou qui font des jeux de rôle, enfin voilà, à part quelques personnes comme moi parce qu'on n'a plus de place pour tout mettre à la maison, la plupart des gens normaux sont multitâches au niveau culturel.
Théo Touré d'Angreville, et vous, qu'est-ce que vous avez glissé sous le sapin?
Moi, pour les neveux nièces, pour plus jeunes, j'ai un livre de jeunesse, un vieux livre de jeunesse que moi-même je lisais quand j'étais gamin,
ouais.
Les Trois Bandits, qui est assez connu, qui est d'origine américaine, qui tourne déjà depuis maintenant, je crois qu'il est des années 60, si je ne m'abuse. Et c'est un des bouquins avec lesquels j'ai appris à lire. Et puis sinon...
C'est édité chez qui? Allez.
Je suis pas sûr, Glénat, je dirais, mais à vérifier. Et puis sinon, j'ai également, prévu, et ben effectivement, il y aura certainement la première saison en Blu-ray de Demon Slayer, hein, qui est un shonen, du coup, un manga de bagarre, quoi.
Pourquoi on peut être spécialiste des comics américains et s'intéresser à ce qui se passe en Asie?
Oui, bien sûr. Mais c'est exactement ce que disait Xavier. Les zones se touchent et les zones se recoupent. À partir du moment où on bosse sur la culture populaire, on est amené à voir un peu tout ça.
Marc Bourgne, et vous alors?
J'ai un fils qui a 16 ans, donc il a été pourri gâté, comme d'habitude, comme tous les ans.
Par des bandes dessinées?
Il lit pas de bandes dessinées.
Il laisse ça au grand enfant qu'est son père.
Ouais, exactement. Donc je sais pas si c'est le fait que je sois auteur de BD, ça pour lui c'est peut-être juste un métier et pas. Non, mais ça l'intéresse pas la bande dessinée. Alors il y avait quand même un album.
Ça vous désespère ou pas?
Non, pas plus que ça parce qu'il est passionné par le cinéma et moi je suis très cinéphile aussi. Donc
c'est ça le terrain d'entente, c'est le
ouais,
cinéma.
Ouais, c'est ça. Plutôt. Et il y a quand même une bande dessinée sous le sapin pour lui, c'est le dernier tome de la série Seul chez Dupuis. de Velman et Gazzotti, qui est la seule BD qu'il lit et qu'il aime.
Et l'idée de transmission, c'est important pour vous, Marc Bourne, que ce que vous avez lu, parce que Théo Touré d'Angreville nous parlait, carrément, c'est un exemple de transmission. Ouais. Il transmet à ses neveux et nièces ce que ses parents lui ont transmis.
Ah bah oui, forcément, c'est quand on est parent, c'est...
Et en bande dessinée, c'est évident.
Ben, j'ai pas réussi à mon fils à lui faire lire de bande dessinée, mais...
Même pas Alix ?
Non, même pas Alix. Non, même pas Michel Vaillant, que j'ai dessiné pourtant.
Alors, imaginez l'enfance de Batman ou d'un autre super-héros américain, c'est tout à fait évident, ça existe depuis la nuit des temps, j'allais dire. Ça l'est beaucoup moins quand on passe en Europe, mais pourtant vous avez imaginé l'enfance d'Alix. Alors, au-delà de l'explication rationnelle, bah oui, les super-héros appartiennent plutôt à des studios aux États-Unis, alors que en Europe, les héros ou les super-héros appartiennent plutôt à des auteurs. Comment expliquer cela, Xavier Fournier?
Je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre un peu...
Du culturel?
Mythique. C'est-à-dire que la plupart des BD sont pas passés par le stade de l'enfance. C'est-à-dire qu'on a les premiers épisodes de Batman ou Superman, on obtient directement le héros adulte en train de rendre la justice. Et puis ça, on peut l'étendre à plein d'autres personnages populaires tels que James Bond. On a envie déjà tout de suite de passer au héros fonctionnel. Et puis avec la popularité de ces personnages-là, arrive immanquablement au bout de quelques années, mais qu'est-ce qui a fait ce personnage? Qu'est-ce qui fait que ce type-là puisse être comme ça aujourd'hui? Et à ce moment-là, on remonte le temps en introduisant sa jeunesse comme souvent pratiquement un personnage autonome. Le jeune Superman s'appelle Superboy. Et on va rajouter cette étape de la légende il y a ce néologisme qu'on appelle la préquelle, quoi. C'est-à-dire que comment le personnage a découvert ses pouvoirs, comment il a tâtonné dans ce truc-là. Il y a aussi, il faut le dire, la logique commerciale derrière, qui est de se dire qu'en ayant un personnage plus jeune, on peut aussi peut-être intéresser le petit frère du lecteur qui lit Superman. Il y a aussi ce calcul-là.
Mais j'ai l'impression que cela se fait d'une manière presque naturelle aux États-Unis et que cela n'arrive pas à se faire malgré quelques essais en Europe.
C'est vrai qu'il y a une force de production aux États-Unis. Le rythme de production mensuelle des comics, c'est une vingtaine de pages pour la plupart des comics. On parle en fascicule, donc une vingtaine de pages chaque mois, quand c'est pas plusieurs épisodes par mois. Et donc logiquement, quand on se réfère à la taille d'un album de franco-belge qui sort à un autre rythme, le rendez-vous est pas si multiple pour la franco-belge. Alors ça donne aussi un recul qui est intéressant. C'est autre chose. Mais pour les comics, on produit. Alors ça laisse parfois des œuvres qui sont pas très mémorables. Et puis ça amène aussi plein de choses par ça. C'est-à-dire très vite, les auteurs de Batman et de Superman, même de leur vivant, n'étaient pas en état de tout fournir. Et il a fallu s'entourer de collaborateurs. Et à partir du moment où vous avez très vite ces personnages qui commencent à vivre à travers différents styles de scénaristes, différents styles de dessinateurs, eh ben ça permet aussi de diffuser un petit peu ce truc-là. À plus forte raison, le fait d'avoir deux couches chronologiques, d'avoir à la fois le héros adulte et le héros jeune, on se retrouve un petit peu dans la même situation qu'au cinéma, où ça permet de changer d'acteur plus naturellement. Et ça permet aussi d'avoir un dessinateur qui n'est pas le même et ça choque personne.
Non, mais la question, c'est pourquoi cela se fait d'une manière presque naturelle aux États-Unis et pas en Europe? C'est-à-dire, il y a eu des essais, hein. Il y a eu le petit Spirou, il y a eu la jeunesse de Blueberry, il y a même eu Kid Lucky pour imaginer l'enfance de Lucky Luke. Mais pourquoi ce n'est pas naturel, Théo Touré d'Angreville?
Moi, je pense que déjà pour le comic, c'est devenu maintenant, c'est rentré dans les mœurs d'avoir cette idée de la origin story qui fait partie des codes, en fait. On s'attend à ce que le comics, il commence sur la jeunesse de Batman, on le voit tomber dans le gouffre, on voit les chauves-souris, On s'attend à ce que Peter Parker.
On imagine ça après coup. On parle de préquel. Hein.
Oui, bien sûr.
Et on imagine l'enfance que des super-héros qui ont une certaine popularité.
Mais il y a beaucoup de encore aujourd'hui de comics de super-héros qui peuvent commencer sur. En fait, c'est bandes qui nous placent justement soit les origines des pouvoirs, soit les origines de la mission, soit les origines de. Il y a souvent cette idée-là. C'est des choses qu'on a rajoutées après que les scénaristes, dessinateurs ont créées par la suite, mais qui aujourd'hui s'est établi à bien des égards dans les codes du super-héros.
Et pourquoi ça ne marche pas
ici ? Pas en Europe. Je pense que c'est parce que. C'est peut-être une question d'accès au lecteur et peut-être de j'allais dire de période d'édition et de publication, mais ça fait longtemps maintenant que les comics de super-héros aussi.
Je me demande aussi si pendant longtemps,
c'est fourni, oui.
Longtemps en Europe, si on tout bêtement, comme on avait vraiment rangé la bande dessinée dans un truc, c'est pour les enfants. Il y a eu un moment où cette logique dont je vous parlais tout à l'heure de calculer à la fois le lecteur et puis peut-être le petit frère du lecteur, enfin d'avoir différentes couches de la famille.
Ils disent.
Aux États-Unis, on a pensé ça, alors qu'en en Europe, et en tout cas en France à une époque, c'était de toute façon c'est pour les enfants en bas âge, point.
Moi, je pensais qu'il y avait un côté sacré, et qu'il fallait surtout pas toucher un héros de bande dessinée, fallait surtout pas imaginer son enfance, il fallait rester dans le cadre de l'auteur Marc Bourne. Vous êtes lancé dans cette périlleuse aventure d'imaginer l'enfance d'Alix. Là, vous savez bien que, alors que on est dans une logique purement américaine, hein, c'est un éditeur qui vous demande de reprendre un personnage iconique de la bande dessinée franco-belge. Ils ont tout préparé, c'est-à-dire c'est eux qui choisit le dessinateur, il vous donne des indications, mais néanmoins, quand vous avez réagi, parce que ça ne se fait pas d'une manière, disons, naturelle en Europe.
Alors le dessinateur, c'est moi qui leur ai suggéré Laurent Libessard, que je connaissais déjà, et il a fait des essais et ils ont accepté. Donc je suis quand même un peu intervenu à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est une suggestion de l'éditeur, notamment de Benoît Mouchard, qui dirige, directeur de la bande dessinée chez Casterman, qui a eu cette idée de faire Alix Origine. L'idée, c'était aussi de toucher un public plus jeune, c'est ce que disait Xavier pour les comics.
L'idée, c'était aussi d'appliquer une recette américaine à un contexte franco-belge.
Oui, d'ailleurs, d'où le titre de la série, Alix Origine, et c'est une origin story. Effectivement, mais c'est vrai que c'est finalement, quand vous m'avez invité et que j'ai travaillé que j'ai réfléchi au thème de l'émission, je me suis dit, mais c'est vrai que finalement, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel dans le sens où c'est une exception et qu'il n'y a pas ça, effectivement. On connaît pas du tout l'enfance de Tintin. On connaît pas ses parents, on sait pas s'il est orphelin ou pas. On sait pas s'il a des frères et sœurs. On connaît l'enfance de très peu de héros. On connaît un petit peu celle de Rahan parce qu'il y a eu une histoire courte sur l'enfance de Rahan. On connaît un peu celle de Largo Winch. On connaît un peu l'enfance de Ricochet, puis c'est à peu près tout. Alors que les super-héros américains, finalement, dès le début, on connaît l'enfance de Superman, on connaît celle de Batman, on connaît celle de Spider-Man, qui sont tous orphelins d'ailleurs. Ils sont tous devenus orphelins dans des circonstances tragiques. L'enfance des héros de la bande dessinée franco-belge, on la connaît pas vraiment. À part effectivement pour des héros humoristiques comme Astérix, Lucky Luke, Spirou ou Gaston même. Il y a eu deux albums d'une série qui s'appelait Gastoun en 2011. Alors peut-être, je sais pas trop pourquoi, je sais pas si ce sont des raisons culturelles, des raisons le fait que effectivement un personnage de bande dessinée appartient à son créateur, mais rien n'empêchait Jacques Martin de lancer une série parallèle à Alix Origine de son vivant.
Ceci dit, il était plutôt ouvert, puisqu'on a d'abord imaginé Alix vieux, vieillissant.
Oui, Alix Senator, il a une cinquantaine d'années.
Une cinquantaine d'années.
Ouais, c'est ça.
Et là, du vivant de Jacques Martin.
Oui, c'est vrai.
Et avec son accord. Là, c'est pas avec son accord. Alors justement, comment on fait ? Alix appartient-il à Casterman plutôt qu'aux ayants droit de Jacques Martin ?
Non, aux ayants droit. C'est les ayants droit qui décident de tout. Casterman n'a aucun pouvoir de décision.
Très bien.
Donc, ils vendent juste les albums, c'est tout.
Donc ça a été quand même un travail entre l'éditeur Casterman et les ayants droit pour arriver à cette nouvelle série.
Exactement.
Comment on fait, comment on imagine l'enfance d'Alix ? On en parlera dans un instant avec vous, Marc Bourne. Mais pour revenir, est-ce que la logique commerciale, c'est ça, l'alpha et l'oméga, pour imaginer l'enfance, l'adolescence des super-héros qu'on a connus plutôt dans un âge adulte ?
Quand on parle de logique commerciale, c'est vrai que à chaque fois qu'on essaie de mixer ça avec la logique artistique, ça sonne comme un gros mot. Après, la logique commerciale, c'est aussi le fait d'avoir des lecteurs. Et si vous n'avez pas de lecteur, ça vire vite à l'onanisme culturel, on va dire. Il y a plein de choses. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, historiquement, les auteurs de bande dessinée sont encore moins défendus qu'en Europe. Et il y a cette espèce de petite pirouette, c'est que très vite, l'auteur de Superman s'est dit, ben voilà, je me suis fait avoir sur les droits de Superman, j'aimerais bien créer cette nouvelle BD qui s'appellerait Superboy, qui raconterait l'enfance de mon personnage.
Et cette fois-ci, je veux bien négocier mon contrat.
Et voilà, et donc ils lui ont dit non. Ah. Ils ont dit non, ben non, Superman en France, ça marchera pas, ça intéressera personne. Et en fait, il a découvert quelques années ou quelques mois plus tard que Superboy apparaissait dans les pages de...
Ils lui ont piqué l'idée.
Ils lui ont piqué l'idée et ils lui ont dit, ben non, c'est un dérivé de Superman et on l'a commandé à d'autres auteurs.
Théo Touré d'Angreville.
Les comics de super-héros regorgent effectivement d'histoires cruelles, et ça a été un véritable combat judiciaire qui a duré, pour certains d'entre eux, un bon paquet d'années avant d'arriver justement à être connu. C'est pour ça que souvent aujourd'hui, maintenant, vous verrez justement que c'est les auteurs seront crédités à la fin des œuvres qui parlent des super-héros. Après, pour ce qui est de l'enfance, c'est vrai que je pense que c'est vraiment une particularité de la BD franco-belge de pas l'avoir souvent, parce que dans les comics on a effectivement les histoires des enfants, dans les mangas aussi.
Dans les mangas aussi.
Oui, on a énormément de si on prend les shonen et les shojo qui sont les, on va dire les qui veulent littéralement dire jeunes garçons et jeunes filles, et qui sont donc destinés à un lectorat assez jeune, on va toujours avoir des flashbacks qui vont faire partie de l'histoire des personnages.
Ah bah c'est intégré, c'est pas une série dérivée comme ça se fait aux États-Unis ou même avec Alix.
Non, on va même tendance.
Donc c'est
non,
intégré dans l'histoire.
C'est intégré directement dans l'histoire, c'est réfléchi. En général, ils vont même commencer enfant puis passer adulte pendant la progression de l'histoire. Et puis avoir des flashbacks de quand ils étaient enfants. Ouais.
Bah, c'est déjà un schéma différent.
Ouais, c'est encore un schéma différent, ouais, tout à fait.
S'il fallait parler maintenant de l'enfance des super-héros, quand on imagine cette enfance, on est marqué par quoi? On est marqué par l'époque où on imagine justement cette enfance, ou est-ce qu'on est marqué beaucoup plus par l'histoire, par le background? On essaye de remonter le temps avec le super-héros.
Pour ma part, je dirais que c'est l'époque. Peu, parce que comme les super-héros, en tout cas pour moi, je pense que là ça serait subjectif en fonction des lecteurs, mais comme on replace souvent les origines des super-héros dans une époque contemporaine, les décors changent, en fait, s'adaptent. On reconnaîtra Gotham ou on reconnaîtra le manoir Wayne à chaque fois qu'on verra l'origine de Batman, mais les traits auront changé et nous rappellerons quelque chose qui est plus en accord avec notre temps. Donc pour moi, non, je pense que vraiment ce qui a tendance à vraiment me venir à l'esprit quand on parle de l'origine des super-héros, c'est le traumatisme originel souvent qui est là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Ben Parker qui meurt, c'est Batman qui tombe dans le trou, et c'est Matt Murdock qui se fait aveugler par de l'acide.
Xavier Fournier, c'est à vous de vous parler, parce que l'enfance de Batman, c'est plutôt réussi.
C'est-à-dire que c'est peut-être aussi une des différences qu'on a avec les personnages européens. C'est vrai que l'enfance de Tintin, qui est pas mentionnée spécialement, c'est parce que elle pose moins de questions. C'est un jeune reporter, point, voilà, ça s'auto-suffit. Quand vous parlez de l'enfance de Superman, dès les premières cases, c'est un gamin qui survit à l'explosion de sa planète. Ça vous pose déjà le cadre. Il peut pas être normal à partir de ce moment-là. Les meurtres des parents Wayne, la mort du père de Peter Parker, fait que forcément, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des choses à raconter et il y a des questions que les lecteurs se posent. Et puis, il y a aussi un procédé mythique ou mythologique, qui est que si vous prenez ne serait-ce que cette première scène d'enfance de Superman, c'est-à-dire qu'il est mis dans une petite fusée qui dérive dans l'espace pour aller sur Terre, une fois qu'on a gratté le vernis de la science-fiction, c'est Moïse. Ouais. C'est Moïse dans le berceau. Donc ça correspond aussi à ces archétypes-là sur lesquels on vient greffer. On a déjà le mythe de Superman et on se dit comment faire l'enfance du héros. Bon, on va aller greffer des archétypes qui correspondent à des héros légendaires.
Et pour Batman, comment a-t-on imaginé l'enfance de Batman ?
Eh ben voilà, ces personnages-là, ils ont en commun que dans les premiers épisodes, on parle très peu de leurs enfances. Superman, je vous ai parlé de l'explosion de la planète, et puis après, on le découvre adulte à 30 ans à Metropolis. Batman, dans les premiers épisodes, il n'a pas d'origine. C'est-à-dire qu'il y a ce type-là qui rend la justice à Gotham, par envie de faire le bien, peut-être. Enfin, il n'y a pas de question, il n'y a pas d'explication. Et au bout de quelques épisodes, on en est venu quand même à se dire, bah non, il faut expliquer. Donc, en l'espace de quelques cases, on explique que ses parents ont été assassinés et qu'il a donc décidé de les venger en faisant régner la justice à Gotham. Et au fur et à mesure qu'on a avancé dans la légende de Batman, parce que honnêtement, quand on reprend les 6, 12 premiers numéros de Batman, si la série s'est arrêtée là, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Elle a rien d'historique et de mémorable dans le style. C'est avec tout ce qui est venu se greffer après que ça a rendu le personnage tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais est venue toute cette explication de dire, ce gars-là qui est une sorte de Sherlock Holmes, qui est maître de tous les combats, de toutes les disciplines, qu'est-ce qu'il a fait comme entraînement? Il était dans quel pays? C'est quelque chose, par exemple, qui a été beaucoup utilisé dans la trilogie de Christopher Nolan.
Absolument. Mais quand vous dites, on s'est posé ces questions, et cela s'est fait au fur et à mesure, c'est qui s'est posé ces questions?
À la fois les auteurs et le public, parce que le public...
Les comics, auteurs originels?
Les auteurs originels, ils étaient assez friands de ça, en fait, au début. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ils étaient d'autant plus friands que peut-être ça permettait de revenir un peu, de discuter... Si on discutait les origines du personnage, on pouvait quelque part discuter aussi les conditions de sa création et peut-être discuter le contrat. Ce qui fait qu'à chaque fois, les éditeurs, eux, étaient pas trop chauds. Ils disaient, oui, il faut voir, mais on va plutôt le filer à quelqu'un d'autre. Donc, il y a eu ce truc-là. Mais il y a aussi un vieillissement de la population. Les premiers super-héros, à la fin des années 30, début des années 40, c'est un public qui a 8 ans, qui lit ça. Puis, au fur et à mesure que ça reste un peu dans la famille ou que c'est des gens qui vont vieillir en continuant de lire ça, on se pose des questions de plus en plus complexes. C'est-à-dire que vous n'avez pas la même opinion sur Batman, vous ne posez pas les mêmes questions sur Batman quand vous avez 8 ans, quand vous en avez 18 ou quand vous en avez 38. Donc, au fur et à mesure que le public va vieillir un peu, et là, aujourd'hui, aux États-Unis, les comics sont vendus surtout dans les comic shops, et donc avec un public qui est plutôt spécialisé, qui est plutôt trentenaire, quadra, voire plus. La complexité des questions qui se posent sur Batman ou sur d'autres, l'enfance de Wonder Woman aussi est très intéressante, elle est beaucoup plus complexe. Et à chaque fois, il faut réinventer le passé pour correspondre à ces nouvelles questions.
Ce sont des poules d'auteurs, de scénaristes. Comment on a imaginé l'enfance de Batman?
L'enfance de Batman, elle est tout simplement qu'il y a un moment, c'était une ellipse. On avait ce gamin qui pleure devant le cadavre de ses parents, qui jure de les venger, et puis hop, ellipse, et on a Batman adulte. Et on a rajouté petit à petit des formateurs, des maîtres. Il y avait un détective à Gotham qui l'avait formé. On a expliqué, vous connaissez peut-être Robin, qui est le jeune assistant de Batman. Et on a expliqué dans certains épisodes des années 50 que, en fait, le premier Robin, c'est Bruce Wayne lui-même. C'est-à-dire que c'est l'identité que Bruce Wayne s'était choisi avant de devenir Batman pour ne pas gâcher sa réputation tant qu'il était faillible. Et puis, plus tard, quand il embauche ce jeune garçon qui devient son apprenti, quelque part, on lui transmet le costume.
Qu'est-ce que vous en savez, Théo Touré d'Angreville, sur comment on imagine l'enfance des super-héros, puisque c'est le thème de l'émission?
Je sais que pour ce qui est de... Des fois, ça va sembler peut-être un peu cynique, mais pour ce qui est des comics... Est-ce que l'histoire se vend va être l'échelon en fait de test, tout simplement. Comme les publications sont très courantes et que le travail est constant, on peut tout à fait faire des séries qui vont avoir un nombre de numéros très limité si on réalise que le lecteur apprend pas. Et donc en fin de compte, c'est directement le marché des comics qui va justifier si l'histoire marche ou pas auprès du public. Quitte à tenter plusieurs hypothèses, on peut tout à fait dire on va faire l'enfance de ce héros, partir sur une histoire, on réalise que ça prend pas, on arrête la collection du héros, 2-3 ans plus tard, si on racontait une histoire légèrement différente, orthographiée légèrement différemment, dessinée différemment, et puis là on réalise que ça prend.
Mais pourquoi ça marche? Est-ce que c'est parce que c'est le cinéma? Parce qu'avec le cinéma, on a appris à accepter que Batman change de carrure physique, change de voix, c'est-à-dire que on ne cherche pas à retrouver le super-héros qu'on a lu dans des comics sur grand écran. Ah, vous n'êtes pas d'accord, Xavier Fournier?
Je ne suis pas entièrement d'accord, parce que c'est un truc que j'écoute beaucoup, d'ailleurs, à la sortie des cinémas depuis quelques années. Il y a beaucoup de lecteurs adultes, ou beaucoup de spectateurs adultes, qui vont voir, par exemple, Spider-Man, et qui ressortent en vous disant, très déçus, en vous disant, ah, c'est pas le Spider-Man de mon enfance.
Oui, mais ça marche, oui.
Mais le vrai truc, c'est que, et là, on en arrive à ce rapport-là, c'est-à-dire que ce n'est plus le spectateur de son enfance non plus. Et il y a cette espèce de dilemme entre le fait de retrouver une espèce de jeunesse éternelle, mais le public lui-même n'est plus ce jeune-là. Et donc, ça crée une situation un peu paradoxale où on cherche une jeunesse qu'on n'est plus nous-mêmes, quoi.
L'enfance des super-héros dans Affinité culturelle avec Marc Bourgne, Théo Touré d'Angreville et Xavier Fournier. Ça, c'est bien sûr le thème de Spider-Man. Si on faisait un tour de table, pour vous, quel est le super-héros? Alors, on reste en Amérique avant de revenir en Europe. Qui vous a le plus marqué, Marc Bourgne?
Moi, c'est Daredevil, je pense. Parce que quand j'étais ado, je lisais Strange. Et il y avait Daredevil dedans. Et puis il y a eu le run de Frank Miller. Ça, je me suis dit, ah mais finalement ça peut être ça les comics. Ça peut être... Même si pas mal d'épisodes étaient censurés dans Strange.
C'est quoi, c'est la fin de l'innocence? Vous découvrez que c'était, le monde est plus complexe, plus dur parfois.
Ouais, c'est ça. C'était une BD adulte, quoi. Enfin tellement adulte que, comme je vous disais, il y a des épisodes qui ont été censurés en France. Enfin déjà tout était caviardé dans les éditions françaises parce que, comme disait Xavier Fournier, on considérait en France que les super-héros c'était pour les enfants. Mais donc, dès qu'il y avait un peu de violence, un peu de hop, on enlevait les bruitages. On enlevait et on supprimait des épisodes.
Mais alors, Strange, c'est quoi?
Strange, c'était un magazine publié par les éditions Lug, qui étaient des éditions installées à Lyon, et qui publiait les comics Marvel en français.
Qu'est-ce qui vous a le plus attiré, vous, en tant qu'auteur de bande dessinée? Vous étiez jeune, mais je suppose que déjà vous dessiniez.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous a attiré? C'est beaucoup plus le graphisme ou c'était déjà les histoires?
Histoires, moi, c'est plus les histoires,
et
toujours.
Et la psychologie des personnages.
Ouais, mais le graphisme aussi. Hein. Parce que je suis les deux, moi, je suis scénariste et dessinateur. Bah ouais. Donc,
Xavier Fournier.
Ah ben, on fait tous les deux partie d'une génération où il y avait Strange et rien d'autre, quoi. C'était en dehors de Strange, c'était le navire amiral à l'époque. Et dans Strange, il y avait les aventures des X-Men. Ouais. Et moi, j'avais le...
Dans Spécial Strange, les X-Men.
Non, avant.
Ah non, exact, les X-Men, oui.
Ça, on va
désolé, pardon.
On va pas
parler de trucs de... Pardon.
Mais comment dire, moi, j'avais une vision un petit peu cliché de la franco-belge. Moi, j'aimais bien certaines choses, mais bon, c'était quand même, je trouvais ça, voilà.
Un peu trop réaliste.
Hein. Non, je dis toujours que les aventures de Tintin m'intéressaient, mais que j'aurais voulu des albums entiers du Capitaine Haddock. Et si on parle de spin-off, c'est un truc que j'aurais été très curieux de voir. Et je lis les X-Men et je tombe sur le premier épisode, le deuxième que j'ai lu. Ce sont les X-Men qui sont confrontés à leur adversaire qui revient et qui leur dit, écoutez, moi je veux bien me ranger, mais à condition que je devienne le chef de l'équipe. Et les gars disent, pas question. Et leur leader dit, ah, si, question, vous avez qu'à vous battre. S'il gagne, ce sera lui le chef. Le truc complètement immoral. Et à la fin de l'épisode, il gagne. Et moi, je lisais ça, j'étais gamin, je disais, mais ils ont le droit de faire ça. Et donc, ça a créé tout un truc de questionnement autour de qu'est-ce qui était moral ou pas.
Alors, enfin, je transgressais les règles.
Je le posais pas avec ce vocabulaire-là, mais moi, ça m'avait un peu mis sur mon fessier en me disant, mais en fait, il se passe beaucoup de choses là dans ce genre de BD que je ne vois pas au même moment ailleurs. Et donc, je suis resté un peu là-dedans.
Théo Touré d'Angreville?
Vous
êtes un peu plus jeune, donc ça va pas être Strange. Non,
non, effectivement, ça va pas être Strange du tout. C'est vrai que j'ai commencé à lire les comics de manière assez tard. Mon adolescence et mon enfance étaient plus marquées par le manga, justement. Et du coup,
quel personnage de manga vous a d'abord marqué, éveillé peut-être ou...
Ah moi, ça va être Naruto. Sa génération Naruto, très clairement pour le coup. Comment dire, c'est un outsider. C'est tout le principe de cette histoire-là. Ce gamin-là, au début, c'est un outsider. Tout le monde le déteste. Tout le monde peut le. Il a un démon enfermé à l'intérieur de lui. Il le sait pas. Mais du coup, c'est vraiment la bête noire du village. Et il apprend à se faire aimer en fait de tout le monde en étant un héros, tout simplement.
Il y a eu un phénomène d'identification?
Pas nécessairement, dans le sens où c'était extrêmement populaire à mon époque et tous ceux qui lisaient Naruto étaient pas mal dans leur peau au collège, quoi. Mais
on l'est tous un peu à un certain âge.
Mais ouais, je pense que en fait c'est un personnage qui parlait à cette transition de l'enfance vers l'adolescence, quoi. C'est vraiment, surtout qu'en plus le héros vieillissant en même temps que nous. C'est-à-dire que quand la série Naruto s'est arrêtée, Naruto Shippuden est sorti, et le héros qui avait 11-12 ans en avait 16-17, quand nous on en avait 16-17 aussi. Donc il nous suivait un peu, même titre qu'Harry Potter, il nous suivait chronologiquement en fait.
Est-ce qu'on comparait aussi, quand on était enfant, nos perceptions d'un super-héros avec d'autres? Est-ce que c'était aussi une manière de voir si on lisait un peu la même histoire? Xavier Fournier?
je sais pas si la question elle se posait comme ça. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on a 12 ans ou 13 ans et qu'on lit les aventures de Peter Parker, qui est donc l'alter ego de Spider-Man, qui lui est censé en avoir 16 à l'époque, on se projette assez facilement dans un personnage qui a 2-3 ans de plus que vous, à plus forte raison, parce que quand vous êtes petit, vous voulez vous faire un peu plus gros que vous êtes. Et donc du coup ça fonctionne par un système d'identification qui aussi devient compliqué, comme je le disais tout à l'heure. C'est que moi je lisais Peter Parker quand j'avais 12 ans et aujourd'hui j'ai l'âge de Tante May, quoi. Donc ça fait que ça complique aussi le rapport, mais il y a quand on est ado, on lit ça de manière fusionnelle.
Alors comme vous êtes des passionnés de la bande dessinée, qu'est-ce que ça fait de relire aujourd'hui avec le recul des histoires qu'on a aimées quand on avait 12-13 ans ou voire moins, Marc Bourgne?
Ben, je sais pas, on replonge dans son enfance, non? C'est forcément agréable, oui.
C'est forcément agréable?
Ben oui.
Xavier Fournier?
Ben, non seulement c'est agréable, mais on redécouvre des trucs, parce que,
ouais,
y a,
vrai, ouais.
En particulier sur les comics, il y a, enfin, de toute façon, sur toutes les BD, mais vraiment, sur les comics, ils sont vraiment en prise réelle avec ce qui se passe au même moment, puisqu'ils sont très productifs et qu'ils ont besoin d'idées tout le temps, donc ils s'inspirent de ce qu'ils voient à la télé, de ce qu'il y a dans les journaux. Et donc, quand vous voyez un épisode de Captain America avec un type un peu fasciste, vous comprenez qu'en fait, ce type-là a été, s'est inspiré du type qui était le leader du parti néo-fasciste américain au même moment. Enfin, ça, c'est des choses que vous percevez pas quand vous avez 12 ans, mais quand vous avez 30 ans et que vous commencez à lire ce truc-là, vous dites, ah, mais attends, derrière, à la case, en fait, il voulait dire ça. Quand il y a un personnage qui s'appelle Captain Marvel, alors la version première du personnage, pas celle que vous avez vue à la télé, enfin, au cinéma, le Captain Marvel premier de Marvel, c'est un type qui communie avec l'univers et ce qu'on appelle la conscience cosmique. C'est-à-dire qu'il a sa conscience qui ne fait qu'une avec le cosmos. Bon, bah, vous lisez ça au premier degré quand vous êtes gamin. Et puis après, 20 ou 30 ans plus tard, vous comprenez quand même que l'auteur de ça était en train de vous parler d'expériences un peu hallucinatoires avec des produits dont vous ne pouvez pas vraiment parler dans les comics.
Et là, c'est votre travail, j'allais dire, en tant qu'universitaire, Théo Touré d'Angreville. Mais avant de parler de Captain America, est-ce qu'il y a des auteurs qui ont mal vieilli, que vous avez aimé quand vous étiez enfant et que vous avez du mal à relire aujourd'hui? D'ailleurs, la question se pose aussi pour vous, Marc Bourgne et Xavier Fournier.
J'aurais tendance à dire que la grande majorité de ce que je lisais quand j'étais gamin et adolescent aujourd'hui me plairait toujours autant de manière différente, mais soit parce que de toute manière, effectivement, je verrais un angle d'étude qui pourrait être intéressant sur le sujet, soit parce que ça fait partie de mon histoire. Peut-être qu'il y a certaines histoires qui ont pu mal vieillir d'un point de vue sociétal, mais dans mon cœur, entre guillemets, non, quoi.
Xavier Fournier?
Bah, ma vie, dans le sens où il y a certains épisodes, par exemple, de Spider-Man qui se passent à la fin des années 60, où tout le monde a des pantalons en pattes d'œuf et c'est le Flower Power Company. Il est clair que je mettrai pas ça dans les mains de mes petits cousins qui vont pas s'intéresser à ça. Ça va pas leur parler. Donc, il y a un facteur de démodé, on va dire. Par contre, ce qui est de la perception, je pense, à la longue, moi, j'ai plutôt le syndrome inverse. C'est-à-dire qu'il y a parfois des auteurs dont j'étais pas très consommateur, enfant ou adolescent, et à la longue, je finis par comprendre ce qu'il voulait dire. Ah, d'accord, c'était ça, et il y a plus
de réhabilité, du coup.
Oui, il y a plus un procès de rédemption en disant, ah, mais j'avais pas compris, en fait, d'accord, ok, c'est ça.
Avec vous, Marc Bourgne, vous qui reprenez des héros inventés en 1948, c'est-à-dire,
ouais.
Oui, c'est-à-dire, il y a très, 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 très longtemps.
Oui. Bah, les tout premiers Alix, c'est très dur à lire aujourd'hui. Hein.
Bien sûr.
Alix l'Intrépide, le Sphinx d'Or, il y a énormément de dessins dans chaque page, il y a beaucoup de textes narratifs, la narration a vieilli. Par contre, les grands à partir des Légions perdues, c'est parfaitement lisible aujourd'hui même. Alors moi, si je relis des BD que j'ai adoré quand j'étais gamin, je prends toujours autant de plaisir. Et ça m'arrive régulièrement de relire des séries entières. J'ai relu, je peux relire tous les Blueberry, tous les Comanches, tous les Ricochets, il y en a plus de 70, et je vais les lire tous à la suite, et je prends toujours autant de plaisir. Après, est-ce que
c'est bon comme autant de Madeleine, parce que ça vous renvoie à votre enfance, ou parce que vous pensez que vraiment c'était l'âge d'or de la bande dessinée, et qu'on racontait bien les histoires à cette époque-là?
Oui, tout ça en même temps, et puis c'est tout ça en même temps. Après, est-ce que je conseillerais à un jeune d'aujourd'hui de lire tout Ricochet? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr effectivement que ça l'intéresserait, ou peut-être, je sais pas. Parce que même quand je lisais ces albums-là, c'est des albums qui étaient déjà parus longtemps avant ma naissance, peut-être pas longtemps avant ma naissance, je suis pas si jeune que ça, mais c'était pas non plus forcément des bandes dessinées qui étaient contemporaines qui étaient mes contemporaines.
Get your guinea pig.
Happens to be the best damn candidate out of 600 volunteers.
A secret experiment gave one man the strength of 100.
The rest of the world, he's just codenamed Captain America.
And the power to save millions.
The Jerry's have an experimental rocket ready to fire on a target somewhere in the United States.
Only he could defeat a superhuman madman.
They got him.
But saving the world left him trapped in an icy grave.
Captain America, you gotta help us.
And only Captain America can stop him.
Les super-héros et comment on imagine leur enfance. Alors si Superman a initié le genre et reste peut-être aujourd'hui l'un des super-héros ayant le plus marqué l'histoire, il n'est pas le seul, on a parlé de son double sombre Batman, mais plus que c'est de là, si on parlait maintenant du super-héros qui est au centre de vos travaux universitaires, Théo Touré d'Angreville, c'est-à-dire le super-héros censé représenter l'Amérique, Captain America, si populaire outre-Atlantique, si inconnu chez nous.
Bah effectivement, ça doit être. Je pense que quand on parle des conceptions qu'on peut avoir d'un super-héros, même si les films, les derniers, les plus récents ont un peu changé la donne, on considère énormément de gens considèrent Captain America comme cette figure de propagande. Et c'était l'idée quand elle a été créée.
Oh, c'est pour en ça 40. Que j'ai lu votre étude avec beaucoup d'intérêt parce que c'est quand même de la propagande.
Ah, c'est tout à fait de la propagande de guerre à l'époque. C'est assumé, c'est-à-dire que quand les gamins achètent les BD, les comics du coup de Captain America, c'est marqué qu'ils soutiennent l'effort de guerre. Mm-hmm. Ils ont des petits pins de Sentinelle de la Liberté. Donc on a été dans cette culture-là, sauf que au fur et à mesure des années. Le héros, en fait, s'est développé bien au-delà de cette figure d'icône de propagande.
Mais parce que les ennemis, entre guillemets, de l'Amérique ont changé.
Les ennemis de l'Amérique ont changé, mais aussi le lectorat a changé. Mmh. Ils étaient plus séduits autant que ça par la figure de propagande qu'ils lisaient quand ils étaient gamins. Parce que les modèles de narration des comics, et de manière générale la narration tout court, a évolué au fil des années 60. Et puis parce que l'idée de ce qu'est l'Amérique est devenue plus nuancée et plus complexe, peut-être, dans l'esprit des gens. Les années 40, c'est ce qu'on appelle la Greatest Generation. C'est l'Amérique vraiment qui libère l'Europe de la tyrannie. Et à ce moment-là, les trois quarts de la société américaine sont ensemble, font corps unis contre ça. C'est devenu beaucoup plus compliqué avec les années 60 par la suite.
Bien sûr. Alors, vous expliquez pourquoi, et c'est très intéressant, parce que Captain America a été inventé par deux auteurs populaires, Jack Kirby et Joe Simon. D'abord, qui ont connu la crise, hein, le crash de 1929, et puis surtout, qui ont inventé ce Captain America alors que la planète, le monde devait défier la menace du nazisme.
Eh bien, effectivement, je pense que dans la propagande de guerre de l'époque, et le terme propagande, il n'est pas connoté comme il l'est aujourd'hui, hein, qu'on soit bien clair.
Oui,
propagande
de guerre,
c'est complètement OK. Il y a littéralement un bureau qui s'appelle Office of War Investigation. Enfin, on est vraiment dans cette idée de l'effort de guerre. Et oui, le personnage fait sens. Le personnage fait sens parce que la propagande de guerre, c'est quelque chose de courant à cette époque-là. Il y a des tracts qui sont lâchés par les avions. Il y a une véritable lutte idéologique.
On comprend mieux le contexte historique.
C'est une manière de participer à l'effort de guerre. Très clairement, c'est c'est une forme d'engagement. C'est une forme d'engagement intellectuel et idéologique de participer à la guerre comme ça.
Mais alors, oui, vous voulez dire quelque chose?
Ce qu'il faut peut-être souligner aussi, c'est que c'est un personnage qui a été, dans le premier épisode, est paru, la date exacte, on la met souvent au dernier jour de décembre 1940.
Ouais.
Donc, qui est paru un an avant Pearl Harbor, à une époque où l'opinion américaine était très partagée sur le fait d'aller faire de la guerre. Donc là, quand on parle comme le disait Théo, quand on parle de propagande, souvent les gens imaginent le gouvernement qui appuie sur un bouton, qui commande une BD. C'est pas du tout ça. Là, c'est vraiment une initiative personnelle de deux auteurs qui avaient des racines européennes et qui disaient faut y aller. Et à l'époque, toute une partie du public n'était pas du tout OK pour y aller. Et ils ont eu même des menaces de mort au bureau de Marvel. Enfin, il y a eu tout un schmilblick. Parce que c'était pas ça. Et en fait, ce personnage-là, un an plus tard, il est au rendez-vous de l'histoire. Il a précédé l'effort de guerre.
Marc Bourg.
Oui, les Américains voulaient pas, étaient absolument contre l'entrée en guerre. C'est Pearl Harbor qui a changé tout ça. Mais je voulais juste dire que Jack Kirby, après, il s'est engagé vraiment. C'est-à-dire le dessinateur qui a créé Captain America. Après, il a fait la guerre en uniforme en Europe.
Comment Captain America a-t-il eu un tel succès populaire?
Moi, je pense que si on parle des années 40, il y a...
J'adore Jack Kirby, mais en tout cas, c'est pas la meilleure chose qu'il ait faite dans sa vie, non?
On pourrait en débattre. Moi, je pense que le succès principal du personnage, c'est que il représente, il incarne ce que les Américains ont envie d'être.
Le rêve américain.
Le rêve américain.
Qui était inaccessible à cette période sombre de leur histoire. Ouais.
Ou
difficile à atteindre.
Difficile à atteindre, mais qu'ils ont atteint au travers de la guerre, en fait. Hein. C'est ça aussi la vérité. Mais ce personnage représente ce qu'ils estiment être le meilleur d'eux-mêmes. Alors c'est difficile à atteindre, hein, c'est un peu conceptuel comme truc, mais du coup voilà, c'est vraiment atteindre ce parangon de justice, ce parangon de vertu, d'humilité, d'action. Ça, c'est pas du tout un personnage dans l'inaction. Captain America, c'est toujours un personnage dans l'action. Et en même temps de rester vrai à ce qu'ils appellent les founding fathers, hein, les pères spirituels de l'Amérique.
Alors, est-ce que c'est un personnage de bande dessinée? Est-ce que c'est un super-héros? Parce que il change graphiquement, on le voit au cinéma sous différentes formes. On a l'impression que c'est plus un concept Captain America qu'un super-héros.
À bien des égards, oui, il a été refait des tonnes et des tonnes de fois. L'uniforme et le bouclier ont changé de main. Ça a été le cas très récemment avec le Faucon dans les films Marvel, mais c'était déjà le cas au début des années 2010. On a déjà eu des versions alternatives de Captain America avant ça, qui étaient des Afro-Américains, qui étaient des femmes, qui étaient des... Donc voilà, c'est avant tout un symbole, ouais, véritablement. À bien des égards, moins peut-être dans la conscience nationale d'État, mais dans l'esprit des gens, moi je compare un peu à Marianne des fois pour la France, ouais. dans l'idée.
Ouais, que ça avait fourni.
Moi, je pense qu'il y a un truc qui a joué dans la perception du personnage dans ses premiers exploits. C'est aussi que c'est la première BD, non pas patriotique. Il y a eu plein de super-héros patriotiques. Captain America lui-même est lourdement inspiré d'un personnage qui s'appelait le Shield et qui était pratique. Enfin, qui n'ait pas eu de procès, ça m'étonne d'ailleurs. Mais la vraie différence, c'est que dès la couverture du premier épisode de Captain America, vous l'avez en train de donner un coup de poing à Hitler. Et le fait que, sans détour, on soit capable de mettre un leader qui était réel, un leader, un futur adversaire sur la couverture, c'est un truc qu'a je veux dire, Captain America, en donnant ce coup de poing, non seulement il tape sur Hitler, mais quelque part il franchit la limite entre la fiction et la réalité. Merci. Et c'est un truc qui change tout. C'est-à-dire que finalement ce comic book un peu populaire de mauvaise facture à l'époque, il vient sur le terrain du dessin de presse pratiquement, de la caricature de presse. Donc ça change aussi les règles.
De manière générale, depuis les années 60, Captain America serait, s'il fallait définir sur le spectre politique américain, j'aurais tendance à dire qu'il serait plus de gauche que de droite.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Il y a notamment le fait que il est très critique de certaines idées les plus conservatrices de l'Amérique. C'est-à-dire que Captain America part du principe que chaque citoyen, quelle que soit sa couleur de peau ou son orientation sexuelle, par exemple, a sa place au sein des États-Unis, tant que justement
et il se reconnaît dans ses valeurs. Et ça, c'est dû à un renouvellement des scénaristes.
Historiquement parlant, et je veux pas faire de généralité, hein, mais j'aurais tendance à dire que la majorité des scénaristes de comics ont souvent été plus de gauche que conservateurs ou ultralibéraux.
Et puis, à partir des années 60, et pendant longtemps, après la Seconde Guerre mondiale, le personnage n'avait pas été utilisé. Dans les années 60, on le ramène. Et en fait, l'épisode est paru à quelques semaines d'écart avec la mort de Kennedy. Et il y a, dans l'épisode des Avengers où revient Captain America, d'ailleurs, il y a un policier qui entre en pleurs quand il voit Captain America arriver, en disant, ça y est, il revient au moment où on avait le plus besoin de lui. Et ça transforme complètement le personnage parce que ça en fait un personnage arthurien, quelque part, qui est sorti de son sommeil parce que le pays avait besoin de lui. Même si c'est pas aussi, dit de manière aussi peu subtile dans la BD, mais ça fait à partir de ce moment-là un personnage qui non pas se complaît dans le portrait de l'Amérique, mais se demande sans cesse ce que devrait être l'Amérique. Et souvent des gens me disent, ah ben oui, c'est pro-américain Captain America, mais Captain America est très critique, que ce soit dans les BD ou dans les films. Quand on voit le Soldat de l'Hiver, ouais. Y a carrément un film entier où il explique que peut-être que l'Amérique moderne, c'est peut-être la survivance du régime nazi d'une certaine manière.
Et pourquoi ça prend pas ici en Europe, en France?
Parce qu'on voit le drapeau et on dit c'est pas le nôtre. Je pense que ça joue.
C'est aussi basique que cela?
Ben, je pense.
J'ai quand même été surpris, moi. Quand j'étais à New York quand le premier film est sorti. Mmh. Il y avait une énorme affiche, je me rappelle, devant mon hôtel, et je me suis dit, mais c'est un personnage complètement suranné, ça va jamais marcher, ce film. Marvel Studios a réussi à rendre contemporain un personnage un peu ringard. Et ils ont vraiment bien réussi.
Justement,
ils ont réussi à ce qu'il le soit pas, et ils ont gardé ce côté où effectivement.
Captain America, de gauche.
Même pas. Il est pas national. Enfin,
il est patriote. C'est ça la différence.
C'est différent. Hein. C'est la différence. Oui.
On dirait chauviniste.
Et ils ont gardé ça dans les films. Et en plus, Chris Evans, qui l'interprète, je trouve qu'il est en train de s'engager en politique à gauche aux États-Unis. Enfin, en tout cas, il est assez actif et je trouve je me demande si Captain America a pas fini par s'identifier au personnage.
Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos, ma peau se transformait en pyrogravure.
Nos enfances en miroir de l'enfance des super-héros, c'est le thème de notre émission. Joyeux Noël, si vous nous rejoignez. Alors, une émission avec Xavier Fournier, Marc Bourne et Théo Touré d'Angreville, qui est universitaire spécialiste de la culture contemporaine américaine. Vous travaillez bien sûr sur la représentation des justiciers et super-héros, mais surtout, vous participez à un projet de recherche européen, démo série, avec l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui étudie les séries sécuritaires. Expliquez-nous ça.
Alors oui, ça vient de...
C'est intriguant.
Tout à fait. Bah c'est issu de... Ça fait maintenant déjà une bonne quinzaine d'années que l'étude des séries et la culture populaire arrive petit à petit, à force de bataille, à bout de bras, à s'installer dans l'étude universitaire. Et en fait, les séries sécuritaires, c'est des séries comme Le Bureau des Légendes, c'est des séries comme Homeland, c'est toutes ces séries qui parlent d'espions, de terroristes, de bombes. Et on essaye de réfléchir ensemble à, en fait, quelle perception ça crée dans l'esprit des gens, dans l'esprit de l'audience.
Vous l'avez fait avec les super-héros des comics américains, notamment avec Captain America. Et si on passait maintenant à Alix, avec vous, donc, Marc Bourne. Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une logique américaine, hein, c'est-à-dire un éditeur, Casterman, qui vous demande une série dérivée d'Alix avec un cahier des charges. Alors, il y avait quoi dans ce cahier des charges?
Ah ben, il n'y avait rien, c'est juste de raconter l'enfance d'Alix, c'est tout. Donc, c'est la seule mission qu'on m'a donnée. Alix, qui n'est pas un super-héros d'ailleurs, qui est un héros très humain, créé par Jacques Martin. Benoît Mouchard, le directeur de la BD chez Casterman, savait que j'étais un grand fan de Jacques Martin, que je connais bien la série. Puis j'ai fait des études d'histoire aussi. Donc il a dû penser que j'étais le scénariste idéal, enfin en tout cas un bon scénariste pour ce projet-là. Il m'a juste dit, on voudrait raconter l'enfance d'Alix. Il faudrait que ce soit une série jeunesse pour essayer d'intéresser le jeune public, parce que les jeunes lecteurs ne lisent plus du tout Alix.
Alors, ce qui est frappant, Marc Bourne, ouais, c'est que c'est quand même dessiné comme dans un manga. C'est
pas exactement, mais c'est vrai que c'est
le découpage, c'est un découpage manga. On est très loin de la ligne claire.
Alors, on n'est pas si loin que ça. Ça reste de la BD franco-belge. Ce sont des albums de 46 planches, qui est le format classique de la bande dessinée franco-belge.
C'est le même format. Tout à fait d'accord avec vous.
C'est mis en couleur. Par contre, c'est vrai que le style graphique est...
Et la mise en page aussi, la mise en page.
Elle est plus moderne, oui. Oui, c'est sûr, elle est plus moderne et même...
Vous appelez ça plus moderne quand c'est plus manga?
on va dire plus contemporaine, enfin plus susceptible, oui, de parler à des jeunes lecteurs. Mais c'est, ça se ressent aussi dans l'écriture du scénario. Par exemple, j'ai aucun texte narratif. Je m'interdis les textes narratifs, alors qu'il y en avait beaucoup dans la bande dessinée franco-belge classique. Donc je raconte l'histoire en images et avec des dialogues. Et le dessinateur. Alors c'est vrai, c'est une série plus jeunesse. Après, je pense qu'elle peut aussi intéresser les vieux lecteurs d'Alix. Parce qu'ils vont apprendre, ils vont avoir des informations qu'ils n'ont pas dans les Alix de Jacques Martin.
Alors, je vous propose d'écouter une archive très intéressante de Jacques Martin. C'était en 1985.
Ah, mais Hénac, alors là, il y a quelque chose d'un peu curieux. C'est-à-dire que, évidemment, je l'ai inventé, Hénac, pour les besoins du deuxième livre qui était Le Sphinx d'Or. Et je n'envisageais pas du tout de continuer avec ce personnage. Pour moi, il faisait l'objet d'un trajet qui était l'album. Et ce sont les lecteurs qui m'ont contraint à le faire revenir. Et d'ailleurs, les lecteurs attentifs peuvent voir que dans le troisième livre, L'île maudite, tout d'un coup, arrive en catastrophe ce personnage qu'on n'attend pas, qui est Hénac. Eh bien, c'est sous la pression des lecteurs. L'éditeur m'a même demandé d'arriver un jour à son bureau. Il m'a dit, vous vous rendez compte, mais on va avoir la révolution dans la porte. Il y a des lettres, c'est infernal, des coups de téléphone, des gens qui deviennent furieux, fâchés. Et Hergé avait été, au même moment et avant moi, piégé que le capitaine Haddock, comme ça. Hergé n'envisageait pas du tout, croyez-moi, de faire une longue carrière au capitaine Haddock. Et alors, ce sont les lecteurs qui ont imposé Haddock à Hergé et Hénac à moi. Je ne regrette pas tout compte fait, et pas plus qu'Hergé ne regrettait.
Hénac, imposé par les lecteurs et donc par l'éditeur. Marc Bourg, d'abord, comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre, ces propos de Jacques Martin en 1985?
Oui, c'est amusant. Alors, je pense que les lecteurs avaient plus d'influence sur les auteurs de bande dessinée jadis, à cause des journaux de bande dessinée. C'est-à-dire que toutes ces grandes séries paraissaient dans Tintin, dans Spirou ou dans Pilote, après, en France. Et les lecteurs, effectivement, réagissaient énormément, envoyaient beaucoup de courriers. Donc, je pense qu'il y avait une réactivité plus grande des auteurs aux réactions des lecteurs. Après, il dit que les lecteurs lui ont imposé Hénac. Je vois pas. Enfin, il s'est laissé imposer ça, mais il n'avait pas d'obligation, j'imagine, de laisser ce personnage. Après, ça lui a rendu service.
Quand on se fait convoquer par l'éditeur,
oui.
Tout le monde aime ce personnage. Et moi, je les comprends, les lecteurs de l'époque.
C'est
le personnage qui rend intéressant personnalité Alix.
Oui, mais je pense que Jacques Martin s'en est bien rendu compte de ça.
Tout comme le capitaine Haddock, d'ailleurs.
Voilà, Jacques Martin s'est bien rendu compte, ou Hergé, ils sont bien rendu compte que c'était plus intéressant pour le héros d'avoir un compagnon avec lequel réagir ou interagir, que c'était plus intéressant que d'avoir un héros tout seul.
Alors qu'aujourd'hui, il faut attendre 3, 4, 5 mois pour voir si les albums se sont bien vendus.
Les réactions des lecteurs, oui, c'est ça. Ouais. Oui, puis les lecteurs, on les rencontre dans les salons de bande dessinée, dans les festivals, on discute avec eux. Je pense qu'on est moins dépendant, oui, des réactions des lecteurs. Après, je pense que c'est plus l'éditeur qui a imposé le personnage d'Hénac à Jacques Martin, plus que les lecteurs.
Vous le croyez qu'à moitié, vous voulez dire, Jacques Martin, dans cette...
Jacques Martin, il enjolivait un petit peu certains événements de temps en temps. Hein.
Alors vous avez inventé pour le jeune Alix, du coup, une petite copine, une petite amie, on peut le dire, une jeune romaine. Pourquoi? Est-ce que dans votre esprit, c'est un test? C'est-à-dire qu'à un certain moment, vous dites, je prends un risque, je vais introduire un personnage.
Non, moi je... J'ai écrit plusieurs dizaines d'albums et j'envisage pas, enfin on peut plus envisager de nos jours dans la bande dessinée franco-belge, mais même ça me viendrait même pas à l'idée de qu'il n'y ait pas de personnage féminin fort ou intéressant dans
une
histoire. Donc
marqué par l'époque, donc.
Oui, disons, c'est aussi qu'ils ne pouvaient pas le faire à l'époque. C'était interdit, hein, quasiment interdit dans la bande dessinée franco-belge dans les années 40-50 d'avoir un personnage féminin. Quand Charlie Hubino a créé Lady X, qui était l'ennemi de Bogdani, ils ont dû la censurer, la rendre la moins féminine possible, lui aplatir la poitrine, etc. Enfin, c'était très compliqué, hein, à moins d'avoir un personnage caricatural comme la Castafiore. Après, Jacques Martin était le premier à avoir des personnages féminins très forts dans Alix. Très, y compris dans les années 50. C'était des personnages très importants, très forts, mais c'était des personnages secondaires, donc je perpétue la tradition. Mais c'est vrai que dans chaque album d'Alix Origine, là, je vais commencer l'écriture du cinquième, il y a toujours un personnage féminin important dans chaque album.
Ouais. Comment vous avez imaginé cette enfance d'Alix? Quelles sont les questions que vous vous êtes posées, les recherches que vous avez
Une bonne question, oui. Parce qu'effectivement, on se pose des questions, parce que Jacques Martin a donné des indices sur l'enfance d'Alix dans ses albums, notamment dans 4 d'entre entre eux, dans Alix l'Intrépide, le Sphinx d'Or, Yorix le Grand et c'était à Khorsabad, ils donnent des informations.
Et vous jouez au qui détective.
Sont pas, qui, oui, voilà. Alors, l'idée, c'est, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher j'ai réuni toutes ces informations qu'ils donnent. J'ai essayé d'écrire ensuite une histoire, de remplir les trous, d'écrire une histoire cohérente qui permette d'intégrer tous ces éléments qui sont, parfois contradictoires d'ailleurs, qui sont pas toujours très cohérents. Donc, d'essayer de donner une cohérence à tout ça et puis d'inventer une histoire, à partir de tout ça, quoi, de donner de la cohérence.
Qu'est-ce qui vous a pris le plus de temps? Relire toute la série Alix de Jacques Martin et ceux qui ont été écrits 206 ans, même si c'est pas lui qui faisait tout à la fin, de plonger dans vos manuels d'histoire ou d'essayer justement de vous imprégner de l'air du temps pour imaginer une enfance à Alix.
Qu'est-ce qui m'a pris le plus de temps? Les recherches historiques, je pense, quand même. Parce que je me suis vraiment basé sur le contexte historique, c'est le tout début de la guerre des Gaules et c'est notamment la bataille de Bibracte. Donc, je me suis beaucoup documenté. Laurent Libessard aussi s'est énormément documenté.
Le dessinateur
auprès d'archéologues, etc. Donc, ça a beau être une bande dessinée jeunesse, on est assez rigoureux historiquement. Mais ce qui m'a pris plus de temps, c'est ça, oui. C'est pas de relire les Alix. D'ailleurs, j'ai pas forcément relu tous les Alix parce que je les connais bien. À partir du moment où j'avais ces quelques éléments, j'ai essayé de rendre tout ça cohérent et puis de donner une personnalité à Alix à 10 ans qui est forcément différente de celle qu'il va avoir plus tard parce qu'il va vivre des choses tellement dramatiques, tragiques, qu'il sera plus le même après une fois adulte.
Mais pourquoi vous l'avez pas dessiné? Vous êtes aussi dessinateur. C'est qui a décidé que vous n'alliez pas dessiner, mais plutôt scénariser les aventures du jeune Alix?
Oh, bah, c'est l'éditeur, mais c'est vrai que comme on voulait un style graphique, vous en avez parlé, qui soit écarté du style de Jacques Martin, qui est un style mi-réaliste, mi-ligne claire. Ça, j'aurais été capable de le faire. Je serais capable de le faire. C'est plus mon style à moi. Mais on voulait un style plus, qui plaise plus aux jeunes, qui soit plus susceptible de plaire au jeune public, un style un peu plus manga, comme vous disiez, et ça, je sais pas le faire.
Donc. Alix Origine, c'est chez Casterman. Alors, qu'en pensent ceux qui ne sont pas jeunes, comme nous, comme moi, Xavier Fournier? Alix, pour vous, c'est...
Alors, Alix, oui, j'en ai lu un petit peu, mais je trouve que ça m'intéresse beaucoup plus depuis qu'ils ont justement démultiplié les époques, et en particulier le Alix politique plus vieux.
C'est la tort. Et enfin, Théo Touret d'Angreville, est-ce qu'il vous arrive de lire Alix?
Ça fait partie des premières BD que j'ai lues quand j'étais gamin, Alix, Black et Mortimer, Blueberry. C'est ces BD qui m'ont, en fait, par la suite donné envie d'aller en fac d'histoire.
Affinité culturelle. Sophie Kakem, à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Et en ce jour de Noël, on était en enfance avec les super-héros et en compagnie de Marc Bourgne, de Théo Touret d'Angreville et de Xavier Fournier. Merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Merci.
Émission préparée avec l'aide précieuse de Cyril Marchand, réalisée par Vincent Abouchard, avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi. Just for one day, we can be heroes. Just for one day, and you can be me, and I'll drink all the time. We're lovers, and that is a fact.